Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Ben, vous avez peut-être vu, hier sont sortis des chiffres de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, une nouvelle étude qui montre qu'effectivement, il y a pas mal de Québécois qui, une fois à la retraite, vont avoir des sérieux problèmes d'argent. En fait, les aînés sont de plus en plus endettés. On l'a vu avec le nombre de faillites, par exemple. Il y a de plus en plus de cas de faillite au Québec qui sont faits par des gens qui sont à la retraite. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, nos besoins à la retraite... Vous savez, on nous vend souvent que, ben non, mais à la retraite, t'auras quasiment plus de besoins. Mais là, on nous vend des croisières, on nous vend des voyages autour du monde. Mais là, c'est pas ça. C'est un coût, ça, là. T'sais. Alors, c'est sûr que tu peux toujours partir le mardi en voyage et non pas le vendredi. Ça coûte moins cher. Mais c'est faux l'idée de dire à la retraite, t'as moins de besoins financiers, tes enfants sont élevés. Et puis ça dépend de quelle retraite on parle, âge on part à la retraite. Alors, Lynne Rémillard, directrice adjointe du réseau FADOC, est avec nous. Merci, Lynne, d'être là.
Bonjour.
Evelyne Couturier est chercheuse à l'IRIS. Merci d'être là.
Bonjour.
Evelyne, on vous a entendu hier, entre autres, dans les bulletins de nouvelles, nous expliquer un peu ces données. Pour vous, c'est clair, les aînés québécois vont être un peu plus dans le trouble tout à l'heure. Il va falloir s'occuper d'eux.
Absolument, hein? Absolument. Les choses, présentement, si on regarde le portrait des retraités, leur portrait économique, financier, ils sont plus pauvres qu'ils ont déjà été, mais sont aussi beaucoup plus endettés. Mais si on regardait il y a 10 ans, on verrait la même évolution. Fait que ça continue année après année. Donc, les retraités de demain vont être encore plus endettés. C'est une tendance qu'on va voir, une tendance qui est très lourde. Fait que cette idée-là qu'on a des personnes qui arrivent à la retraite, qui ont fini de payer leur hypothèque, ils ont des bonnes habitudes de crédit, ils n'ont presque pas de dette, ils n'ont pas de dette, c'est de moins en moins vrai. C'est encore la majeure partie des aînés, mais c'est de moins en moins vrai. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, les personnes qui sont au travail maintenant, qui sont remplies de dettes, qui ont des dettes qui dépassent le 140% à l'heure actuelle, ben lorsqu'ils vont être retraités, ils vont être dans la même situation. Donc, on voit qu'il y a une tendance lourde vers une situation beaucoup plus précaire.
Vous n'avez pas considéré qu'en 20 ans, ils pourraient arriver à rembourser leurs dettes? Est-ce que c'est possible, selon vous?
On aimerait ça. Ouais. On aimerait ça, sauf que ce n'est pas ça qu'on voit dans les dernières années. On voit un taux d'endettement qui est à la hausse pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Ouais. On voit des retraités, des aînés qui s'endettent de plus en plus et il n'y a aucune dynamique qui est en train de réduire ça.
C'est ça.
Ni l'endettement personnel pour l'ensemble de la population, ni pour les aînés en particulier.
Lynne, vous voyez ça?
Premièrement, quand on dit que ce n'est pas la majorité, c'est vrai. Mais aussi, il faut penser qu'il y a un aîné sur deux, okay, qui sont en bas du seuil de pauvreté. Alors, on a déjà un aîné de 65 ans et plus qui sont pas dans cette situation-là, mais qui sont pas mieux, en quelque part.
Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent.
Un manque à gagner, en quelque part. Alors ça aussi, faut s'en occuper. Mais quand on parle des statistiques, et on est d'accord avec l'IRIS là-dessus, parce que nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on est au courant, puis qu'on cherche à sensibiliser, le réseau FADOC cherche à sensibiliser les gens. Mais, tu sais, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a constaté, pourquoi, premièrement, ça arrive? T'sais, moi, je pense pas qu'il y ait personne qui se lève un matin et qui dit hey, « j'ai du plaisir à m'endetter ». Il y a des raisons qui font en sorte qu'on s'endette.
Et quelles sont ces raisons?
Je sais pas si tu voulais...
Y en a plusieurs. Je l'ai mentionné tantôt. Les gens viennent à la retraite avec des retraites de plus en plus. Donc, il y a ce problème-là. Et l'autre problème, c'est que lorsqu'on passe d'un revenu de travail avec un bon salaire à la retraite, souvent, on a une diminution très, très importante de nos revenus.
Ouais.
Ça peut passer de la moitié de ce qu'on avait avant la retraite. Mais on a les mêmes dépenses qu'avant. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines dépenses qui sont pas les mêmes. On n'a pas besoin de prendre le transport tous les jours pour aller travailler. On n'a pas besoin d'avoir une garde-robe particulière pour vivre sa vie. Mais d'un autre côté, on a encore besoin de manger, on a encore besoin de se loger, on a encore besoin de s'acheter des vêtements. Puis, les personnes âgées font partie de la société, veulent contribuer. Bon, vous avez parlé aussi de la possibilité de faire des voyages. Il y a beaucoup de personnes qui sont privées pendant toute leur vie active en se disant, lorsque je vais être à la retraite, je vais avoir du temps, je vais pouvoir m'investir dans un jardin. Voyager, je vais aller manger dans des restaurants et tout. Et là, arrive à la retraite, puis il passe d'un salaire annuel de 50 000 à 25 000 $ par année.
Puis aussi, la société a changé, on l'a vu, les femmes, les hommes, les couples ont des enfants plus tard. Moi, j'ai une amie là, qui m'a annoncé cette semaine, 42 ans, est enceinte, c'est son premier, elle est tellement contente. Mais 42 ans, ça veut dire que quand son enfant aura 18 ans, elle en aura 60. C'est pas grave, parce que le 60... Parce que
nous aussi, on continue.
60 aujourd'hui, c'est le nouveau 40.
Là, ça va encore avec
Lynne, ça. C'est ça.
100 000 $.
Sauf que, il n'empêche pas moins qu'à 60, va falloir que le marché du travail ait compris ça. Parce qu'aujourd'hui, à 60 ans, essaye d'entendre t'en trouver une de job.
Exact.
À 18 ans, c'est pas vrai que ton enfant y est élevé. Tu peux toujours, comme parent, dire, ben, écoute, t'as 18, arrange-toi avec ton trouble.
Non, mais...
Moi, je suis pas comme ça comme mère. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui accompagnent leurs enfants
absolument
longtemps.
Puis, il faut pas oublier que nous, on a été accompagnés par nos parents. Il y a beaucoup de personnes de ma génération, des générations plus vieilles, que leurs parents ont aidé avec leurs études, ont aidé avec leur achat de leur première maison. Donc, les personnes âgées d'aujourd'hui voient leurs enfants, ont encore envie de pouvoir contribuer. Donc, de réhypothéquer sa maison pour pouvoir
aider
sa famille, ses enfants à...
On n'est pas dans les croisières, là.
On
est juste dans
le besoin, là.
Cette idée-là que c'est encore ma responsabilité en tant que parent. Puis là, vous parlez de votre amie qui a 42 ans. Donc là, elle va avoir beaucoup de responsabilités financières à encore continuer à contribuer pour son enfant. Mais même si votre enfant a 25, 30 ans, lorsque vous êtes à la retraite, il y a encore une certaine responsabilité.
Surtout qu'au niveau scolaire, ce qu'on voit, c'est que, un peu comme c'est en Europe depuis plusieurs années, mais ça s'en vient au Québec, dans certains profils universitaires, c'est difficile, dans certains cours, c'est difficile de rentrer tout de suite. Souvent, ça te prend un bac, déjà.
Oui.
Fait que là, on va voir des jeunes Québécois qui vont devoir faire, ils vont être suréduqués, ils vont avoir deux bacs avant de pouvoir travailler. Ça veut dire que tu vas rentrer sur le marché du travail. T'auras 30 ans, c'était chanceux.
On va frôler 30 ans, oui, c'est ça.
C'est ça, là.
Mais vous savez, je pense qu'en quelque part, par contre, il faut regarder, c'est un problème de société aussi. Faut pas mettre ça de côté. Parce que, si on regarde les fonds de retraite avec, que ce soit fourni par le Québec, la pension du gouvernement fédéral, même quand eux fournissent, c'est pas des montants qui permettent là, de penser au voyage. Et pourquoi ça arrive? Ben, je pense que les fonds sont là aussi qui est un problème par rapport à toute la société. Mais ce qui arrive, c'est que les gens qui partent à la retraite, puis comme tu disais, ils ont moins d'argent, ils veulent travailler encore.
Ouais.
Alors là, ça devient un problème au niveau des entreprises. Il faut que les gens, maintenant, s'organisent différemment pour avoir des gens de 60 ans, 65 ans, et plus qui vont travailler encore chez eux.
Ouais.
Soit que c'est des nouvelles personnes ou ils gardent les employés plus longtemps. Ça, c'est un fait. Quand on parle des entreprises qui font faillite, disons ça comme ça, ben il n'y a pas de loi aujourd'hui qui protège les gens qui avaient des fonds de retraite. Alors, la personne qui a travaillé toute sa vie, qui a contribué à un fonds de retraite et qui se voit du jour au lendemain privée de sa retraite parce que la compagnie pour laquelle elle travaillait a fait faillite, on est vraiment devant un problème majeur. Le réseau FADOC a dit, écoutez, il faut changer la loi. Il faut que ça devienne une créance privilégiée.
Alors, oui, parce qu'on parle quand même d'une situation de vie de mort, j'exagère un peu, mais
oui,
c'est
mais
les
c'est
revenus
ça.
Dont dépendent ces gens-là une fois à la retraite. Donc, une entreprise, le gouvernement, s'il reçoit pas le prêt qu'il a fait en garantie et tout, il va continuer à exister, il va continuer à fonctionner, mais la personne qui dépend de ces revenus de retraite-là, s'il ne l'est pas, elle ne l'a pas, elle ne sera pas capable d'avoir une vie qui est décente.
Puis là, vous parlez des gens qui ont des revenus de retraite, là, c'est-à-dire qui ont les fonds de pension.
Oui,
et ça, il y en a de moins en moins.
Là, c'est quasiment, on est à combien? 800 000 travailleurs autonomes au Québec?
37% et demi, à peu près.
Et ça, c'est quasiment 40% des travailleurs
qui ont un régime de retraite. Donc, la majeure partie des personnes n'en ont pas.
C'est ça que j'allais dire.
Et on leur dit, épargner. Mais je pense que la règle de base pour épargner, c'est d'avoir assez d'argent pour vivre, là. Manger, avoir un toit, s'alimenter comme il faut, s'habiller. Puis là, on va épargner.
Alors, c'est ça qu'on voit avec les REER. C'est les personnes qui gagnent des salaires très, très, très importants qui cotisent majoritairement dans les REER. Et pour chaque fois qu'on parle de « Ah, mais peut-être qu'on devrait réformer les REER », ce que le gouvernement fait, c'est augmenter le plafond.
Ouais.
Mais augmenter le plafond, ça aide qui? Ça aide pas la personne qui travaille à 50 000 $ qui a déjà cotisé le maximum de ce qu'elle est capable de faire. Ça aide la personne qui gagne 150 000, 200 000 $ qui en profite pour réduire ses impôts.
Mais non,
et qui en profite pour réduire ses impôts. Donc, ils vont avoir une bonne retraite, mais l'ensemble de la population.
Moi, je trouve que l'accès
à
la propriété, on devrait bien plus encourager l'accès à la propriété que
faire
que le REER.
Ben oui. Absolument. Mais tu sais, encore là, il faut penser aussi que c'est pas tous les gens qui sont capables d'avoir des informations nécessaires puis adéquates pour être capables de s'organiser. Alors, ça aussi, c'est important de mettre en place des méthodes de travail avec des gens qui sont plus démunis ou moins habitués à travailler dans
tout ça. Tu sais, il y a une réforme de la fiscalité au fédéral. On en parle pas de ça, de la pauvreté des aînés, de la pauvreté des travailleurs aujourd'hui qui s'en vont dans le mur, si je comprends vos données de l'IRIS. Là.
Mais on en parle très peu parce que la réforme de la fiscalité au fédéral s'intéresse beaucoup plus aux personnes qui sont très privilégiées pour essayer d'égaliser à à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qu'on doit faire, mais on doit également avoir une réforme de la fiscalité puis une réflexion sur comment on gère l'argent pour l'ensemble de la population. Mmh. Et là, on parlait tantôt de la difficulté de gérer son argent, puis les personnes diminuées, puis les personnes qui n'ont pas beaucoup d'informations. Ben, je pense qu'on est pas mal toutes dans la situation de pas avoir assez d'informations.
Oui, c'est sûr.
Qui arrive à la retraite, retire ses REER et est capable de prévoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quel genre de santé elle va avoir.
J'allais le dire, nonobstant la maladie, parce que j'ai Justin qui m'écrit, dit, ma blonde et moi, on a acheté notre maison à l'âge de 25 ans. Si nous n'ajoutons qu'une année à notre hypothèque, malgré les futurs déménagements, on va finir de payer vers la cinquantaine, ce qui nous laissera au moins 15 ans sans dette avant la retraite. Pré-auto exclu. Aucune autre dette prévue avec une bonne planification, une bonne rigueur budgétaire. Donc, lui, il dit,
c'est bien, gros, ça devrait bien aller, c'est ça.
Mais c'est nonobstant la vie.
Nonobstant
la vie peut t'amener des problèmes qui vont te coûter. Tu sais, ta maison, mettons que la maison, là, il faut refaire le toit, là.
C'est ça, là. C'est pas vrai que pendant 10 000, les 15 000,
la maladie frappe.
Tout d'un coup,
aujourd'hui, les Québécois, là, la colonne frais de santé au privé, là, ça n'existait pas avant, cette colonne-là.
Ça
aujourd'hui,
augmente.
Là.
Ça augmente. Et lorsqu'on vieillit, on vieillit avec des incapacités aussi, mais on parlait aussi de travail.
Ouais.
Il y a de plus en plus d'aînés qui travaillent, de personnes 65 ans et plus, de personnes de 70 ans et plus qui restent sur le marché du travail, qui retournent sur le marché du travail, mais qui retournent sur le marché du travail après avoir pris leur retraite, entre autres parce que le marché du travail n'est pas adapté aux aînés. On parle de conciliation travail-famille, on parle de conciliation travail-études, mais travail-retraite, travail-vieillesse, on devrait aussi réfléchir à ça.
Mais c'est de là le plan de match qu'on doit avoir global sur le vieillissement de la population. C'est pas négatif, le vieillissement de la population. C'est juste qu'il faut qu'on regarde ça globalement. On dit tantôt la santé. Ben, si t'es plus pauvre, t'as moins de facilité à te soigner pour avoir bons soins, t'es plus malade. Alors, ça concerne la santé.
La prévention nous dit plus en plus, soyez votre propre patient, prenez des bonnes habitudes d'hygiène de vie. Donc, c'est de la prévention qu'on nous suggère, mais la prévention, ça coûte un peu plus cher.
Et si la prévention est sur l'individu, si on dit aux personnes, faites des cours de yoga, mangez moins de viande, faites plus souvent à manger à la maison, ben est-ce qu'on a le temps de le faire? Est-ce qu'on a l'argent de le faire? Est-ce qu'on a les connaissances pour savoir où aller chercher les ressources? Donc, des campagnes de prévention qui sont plus larges, qui sont plus collectives, là, ça devient intéressant. Mais de dire aux gens, prenez soin de votre santé vous-même et ça devrait bien aller, ben il va y arriver un problème à un moment donné, puis la personne va rester toute seule avec ses problèmes.
Ouais.
Tantôt, on parlait justement du fédéral, mais au fédéral, il y a le supplément de revenu garanti qui existe.
Ben, c'est combien?
Juste
ça?
Pour dire, mettons, là, pour avoir à peu près 5 000 $ tu as 15 000 $ de revenus. Fait que tu arrives à peu près à 20 000 en tout.
OK.
À peu près, là, comme exemple. Mais du jour au lendemain, il y a eu un problème administratif et les gens n'ont plus reçu le revenu. Ben, ça va bien si on en a un peu de côté. Mais ces gens-là sont là devant un fait. Ils sont plus capables de se nourrir. Il y a un problème avec ça. Alors oui, la fiscalité, mais c'est plus large que ça. Faut regarder les conséquences des mesures qu'on prend pour aider à l'économie totale. Mmh. Parce que les gens qui ont pas d'argent, ben ils dépenseront pas là. Fait que tout le monde a des conséquences à ça. Mmh.
On va s'arrêter ici. D'ailleurs, je vais demander aux auditeurs s'ils ont calculé leur affaire. Avez-vous l'impression que vous aurez été capable de rembourser vos dettes à la retraite? Vous nous le dites au 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, le 1-866-790-9850. J'aimerais entendre des retraités, justement, savoir comment ça se passe pour vous en ce moment. Est-ce que c'est difficile de boucler les fins de mois? Est-ce que effectivement vous aviez prévu vos affaires puis ça va plutôt bien? Il y a également, je pense qu'on dit souvent qu'il y a deux Québec dans un. Il y a le Québec de ceux qui ont des fonds de pension puis il y a l'autre Québec de ceux qui payent pour ces fonds de pension. Claude, vous êtes de quel côté, vous?
Moi, j'ai un très bon fonds de pension. Je suis un fonctionnaire provincial. Mais quand j'étais jeune, c'était des religieux qui nous enseignaient.
Ouais.
Ils nous ont formés à mettre de l'argent de côté. Alors, à 21 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à mettre de l'argent dans des livres. Là, j'ai 73 ans. J'avais un très gros montant quand j'ai eu mon 73 ans. J'ai pris cet argent-là, puis j'ai hérité de la maison de mes parents.
Ah, oh, ça, c'est fun.
Là, j'ai tout réparé. Oui, je l'ai tout préparé dans l'ordre de l'audio. Je vis très bien. Mais ce que je peux vous dire, là, je regarde les gens qui vivent autour de moi, je fais du bénévolat. Moi, ceux qui ont le supplément garanti seulement, là, je sais pas. Il y a de la pauvreté, madame, c'est épouvantable. Puis le pire dans tout ça, je regarde, ils n'ont pas de défense, ces vieux-là. Aucune défense. Personne ne va parler pour eux autres. Dire, ben, ils ont besoin d'argent. On fait vivre, nous autres, on va dans des endroits, on appelle ça le comptoir dans la région. Là. Les vieux viennent manger parce qu'ils ne peuvent pas manger chez eux. Je pourrais aller plus loin que ça, mais j'ai vu des personnes âgées hypothéquer leur maison parce qu'ils ne peuvent pas manger.
Mais c'est
au
vrai
Québec, que... madame. Mm. Au Québec, il y a des personnes âgées qui ne sont pas à manger, donc ils hypothèquent leur maison. Lorsqu'ils vendent leur maison, ils la vendent à perte. Alors, moi, je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai une très bonne pension. Puis, ensuite de ça, ma maison, je pourrais, même avec le salaire que j'ai, je ne pourrais pas vivre, Isabelle, à Montréal.
Ouais.
Je ne pourrais pas vivre.
Mais je comprends.
J'ai une bonne pension, là. Fait que c'est ça que je me sens bien, ben j'aide aux autres à ce moment-là.
Ben merci beaucoup, Claude. Merci de le faire. Merci de votre témoignage. Éric, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez que vous aurez encore des dettes à la retraite, Éric?
Ah, moi, si la vie, elle change pas de bord, à 71 ans, on va finir de payer ma maison.
Ah, c'est ça. Bon, ben. vous viendrez manger de la soupe chez nous, puis j'irai chez vous.
Ça va faire plaisir, Isabelle.
Non, mais c'est vrai. Ouais, tout à fait.
On parlait des aléas de la vie.
Ouais.
Moi, j'avais un bon plan, puis je pensais prendre ma retraite à 55. À un moment donné, ça montait à 60. Puis là, c'est rendu, 71. J'espère être capable de la rebaisser, mais là, je suis seul revenu à la maison.
Mm.
Puis, c'est ça qui est difficile un peu. Puis quand je regarde mon salaire depuis 2002, on dirait que je gagne le même salaire aujourd'hui, mais tout a monté, tu sais.
Mm. Ouais.
C'est compliqué.
Est-ce que ça vous décourage de dire, je vais être obligé de travailler jusqu'à 70, 71, ou comment vous voyez ça?
J'essaie de pas y penser, mais quand je vois mon relevé d'hypothèque à tous les mois, ça me fait penser, sinon autrement, j'essaie de skipper ça de ma tête, là.
Ouais. Mais en même temps, vous aurez de l'équité. Vous aurez quelque chose en échange.
Oui. Parce que moi, c'est une maison intergénération que j'ai.
Mm-hmm.
Avec mes parents. Puis je me dis, la journée que j'en aurai plus besoin, je vais pouvoir la vendre.
Ouais, c'est ça.
On sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Comme vous avez dit, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans la vie, hein.
Ouais.
J'ai juste 45 ans, là. Il me reste encore, bien des années, mais en espérant que ça revienne de bord.
Mm. Merci, Éric. Lynn, bonjour.
Oui, bonjour.
Aurez-vous payé vos dettes à la retraite?
J'ai 65 ans depuis moins d'un mois.
Ouais.
Je dois continuer à travailler pour justement payer mes dettes,
ouais,
pour pouvoir après ça vivre que de la pension. Donc, je me vois encore 3 ans à travailler.
Et vous faites quoi, Lynn, comme travail?
Présentement, je fais du ménage dans une maison privée.
Mm-hmm. Puis ça, vous pourriez pas vivre sans ce ménage que vous faites, là?
Pas présentement, non.
Ouais. Puis vous arrivez à aller faire combien par semaine en plus?
Ben, ça va être le fédéral qui va plus à peu près 500 $ par mois qui va
que vous vous rajoutez. OK, d'accord. Merci,
ouais.
Lynn. Merci bien.
Je vous en prie.
Mais Michel, bonjour. Est-ce que vous êtes à la retraite déjà?
Moi, je suis déjà à la retraite. Ben, j'étais à la retraite, mais je travaille. J'ai 67 ans. Donc, c'était j'avais planifié, comme tout le monde, là, sauf qu'en 2008, un divorce, j'ai perdu ma compagnie et ma maison.
Ah,
j'ai oublié de faire faillite. Fait que là, genre, quand j'avais 25 000 $ de dette. Et puis, moi, je suis trouvé de travailler, comme on dit, jusqu'à temps qu'on meurt, je crois bien. Là.
C'est drôle parce que vous avez dit, Michel, je suis à la retraite, mais je travaille.
Ah, ben, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix c'est de travailler ça. Parce que, en fin de compte, j'arriverai pas avec la pension vieillesse, la régie des rentes. D'ailleurs,
ça.
Ben, moi, ce que je trouve aberrant, c'est que peut-être qu'ils veulent toujours encourager ceux qui sont à la retraite de continuer à travailler parce qu'ils manquent. Il manque de personnel pour, ouais, pour le travail. Ouais. Mais sauf que ma régie des rentes, je vous la donne toute en impôts, sinon je paye ça à la fin de l'année.
Mais il y a ça, il y a le manque d'incitatif aussi envers les
oui.
C'est ça.
Sinon... C'est ça. Disons que si le gouvernement pourrait passer, là, parce que moi je paye encore en prime le montant maximum sur la régie des rentes par année.
Ouais.
Sauf que ma régie des rentes que je reçois, je suis obligé de la donner en impôts. Fait que c'est pas trop un incitatif quand on a travaillé. Fait que on le fait parce qu'on n'a pas le choix pour payer les dettes et manger, là. Mais c'est pas trop un incitatif aux personnes qui sont à la retraite de continuer à travailler non plus. Ouais,
non, tout à fait. Non, je vous le dis, il y a un vrai problème de fiscalité. Merci.
Mais c'est Lynn, ce qu'on
Lynn de la FADOC, Lynn Remillard.
Oui, c'est ce qu'on disait tantôt. C'est, ouais, c'est vraiment pas juste une question d'un département qui peut régler le cas.
Ouais.
C'est justement quand on regarde les mesures, mettre des mesures incitatives,
ouais,
comme on disait tantôt, c'est tellement important. Mais il y a un autre facteur aussi. Il y a des gens qui sont capables de continuer à travailler parce qu'ils sont en forme, ils sont capables physiquement ou mentalement de travailler. Mais il y a d'autres personnes, même s'ils veulent, leurs connaissances et leurs compétences, ce sont dans des domaines où ils sont pas, sont plus capables. Tu sais, un couvreur de toit, là. Ouais. Quelqu'un qui fait des toits, qui couvre des maisons. Je suis pas sûre qu'à 68, 69 ans, là, on a le goût d'aller, de grimper. Fait qu'il y a tous ces phénomènes-là qu'il faut tenir compte aussi.
Effectivement. Et là, il y a des Évelyne Couturier de l'Iris.
Oui, il y a des mesures qui ont été prises dans le dernier budget, entre autres, pour encourager les travailleurs âgés de rester. Donc, des subventions, des crédits d'impôt pour les travailleurs âgés qui s'en viennent. Cela dit, ben, il y a ça. Les personnes qui ont des emplois les plus précaires, qui ont souvent aucun régime de retraite, ont souvent des emplois qui sont très difficiles. Donc, travailler après 65 ans et même après 60 ans n'est pas juste une question de choix, c'est une question de capacité. Il ne faut pas oublier, on a une pénurie de main-d'œuvre, mais on a autre chose en même temps. Mmh. On a des employeurs qui pousse beaucoup des employés à la retraite parce que les employés âgés coûtent cher.
Ouais.
C'est les gens qui ont le plus d'expérience, qui sont le plus haut dans les échelons. Donc, on veut les mettre à la retraite pour pouvoir engager un petit jeune qui va avoir plus de facilité avec la technologie, qui va s'adapter plus facilement et qui va coûter moins cher.
Je pense qu'il y a aussi toute la question du travail autonome. Là. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent, ben regarde, moi, je ne veux plus payer 20% de DAS, de déduction à la source. Je veux plus payer tout ça. Ton fonds de retraite, tu te le payeras toi. Moi, je te paye. Tu t'arranges avec tes affaires. Fait que ça fait des travailleurs autonomes, mais qui ont aucun avantage social qui est payé partiellement par l'employeur, contrairement à donc tu te retrouves avec, faut être encore plus
absolument
conscient de l'importance de planifier. J'ai Lou là, qui m'écrit, qui dit c'est Henri qui dit, la réalité c'est que nos pauvres petits Québécois sont pas capables d'épargner. On a tous les outils à notre possession pour finir avec plusieurs centaines de milliers de dollars à notre retraite avec un salaire moyen. Mais notre fonds de retraite, c'est à nous de le faire, pas à notre employeur. Ça, c'est Henry, qui est avec nous au bout du fil. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous êtes à la retraite, vous, d'abord?
Non, ma chère madame. Et j'ai eu un commerce pendant 16 ans. Puis là, ben, présentement, je travaille, je m'enligne pour travailler jusqu'à 74 ans pour finir mon hypothèque. Ça, c'est dépendamment aussi de comment est-ce qu'ils vont être les taux. Mm-hmm. Au fur et à mesure, si jamais les taux montent,
mais là, ça va au Canada. Pour l'instant, ça va bien. Aux États-Unis, ils ont augmenté beaucoup là, depuis 2-3 semaines. Là, ils ont pris 1%. Heureusement, c'est pas c'est pas ce qui est arrivé ici, là, mais.
C'est ça. Mais là, présentement, le mien, il est gelé pour 5 ans.
Ouais.
Mais rien n'empêche. Tu te dis, là, si ça monte, qu'est-ce que je fais?
Ouais.
Tu cours après ta queue. La même chose. Tu sais, parce que, ayant eu un commerce 16 ans, j'ai pas mis une scène de côté.
Ouais.
Ma femme non plus, parce qu'on était toutes les deux dans le même commerce.
Puis vous avez pas dû vous payer tant que ça non plus?
Ben là, oui, là-dessus, on
vous êtes bien payé?
On a payé une instruction à nos enfants.
Ah bon?
On en a deux qui ont des diplômes, qui ont leur bac, je veux dire, grâce à tout ça, là. Mais rien n'empêche, c'est pas nécessairement, c'est que tu te mets pas d'argent de côté.
Non, c'est ça.
Puis tu t'embarques avec des dettes.
Ouais.
Puis, ben, comme t'as une fierté, ben, il faut que tu les payes. Puis, je veux dire, là, ben, s'il nous reste l'hypothèque, mais comme je vous dis, je travaille jusqu'à 74 ans, j'ai 60 ans bientôt. Fait que je veux dire, il me reste encore un beau 14 ans en espérant d'avoir la santé.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm.
Puis ma femme, mais là, je veux dire, elle s'en ligne, elle, pour peut-être que ça soit d'arrêter à 67 ans.
Ouais.
Fait que tant qu'on a les deux salaires qui rentrent, disons qu'on a la chance de pouvoir passer au travers, tant qu'on n'aura pas trop d'erreurs. Tant qu'on ne fera pas d'erreurs non plus. Puis en espérant non plus que le ciel ne tombe pas sur la tête.
Ouais. Merci, Henry. Merci beaucoup. Monique, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
On vous écoute.
Pour avoir travaillé 43 ans dans le domaine financier, OK? J'ai 71 ans aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je suis à la retraite, mais je travaille quand même.
Mm-hmm.
Je n'ai pas beaucoup de dettes puisque c'est garanti par des dépôts à terme. Fait qu'au bout du compte, c'est zéro.
Mm-hmm.
Mais moi, ce que je suggérerais, c'est que le gouvernement nous permette de retarder notre retrait de fer si on en a.
Oui, mm-hmm. Oui.
Parce que si je travaille puis je fais mon retrait de fer, là, j'ai 71 ans là, cette année.
Mm-hmm.
Alors ça va tout aller à l'impôt.
Ouais, ouais.
J'ai ramassé des sommes d'argent pour moi, puis au bout du compte, ça va s'en aller à l'impôt parce que je continue à travailler pour le plaisir.
Mais ça, moi, ça n'a pas de bon sens.
Plaisir d'aller travailler.
Ouais.
OK? Alors ça, je trouve ça tout à fait détestable. L'autre affaire, c'est que on traite le gain de capital, les dividendes, d'une façon différente au niveau fiscal. On devrait faire la même chose pour les revenus de retraite.
Tout à fait.
Quel que soit le revenu de retraite.
Mais ça, c'est pas compliqué, ça, à comprendre, ça. Il me semble
que, tu sais, moi, même si j'ai fait 43 ans dans une institution financière, j'ai pas un bac, mais c'est l'expérience. l'expérience me dit que c'est possible.
Exactement.
Alors, il faut le vouloir.
Merci. Et là-dessus, le ministre des Finances fédérales, à part à encourager le club des petits amis, là, pas grand-chose au niveau des règles de fiscalité à modifier. Pourtant, ce que vient de nous dire Monique, là, puis vous me le disiez pendant la pause, Lynn Remière de la FADEC, vous dites la notion de REER versus le FER là, qui est transféré.
Exactement.
Ça, Evelyne, il me semble que ça devrait être fait de suite.
C'est
là.
Pas compliqué. Hein, ouais,
tu n'as même pas besoin
place.
De réformer la fiscalité, tu as juste besoin de décider ça.
Oui, sauf que c'est quoi la conséquence? C'est qu'il y a moins de revenus au niveau de la... Tu sais, je veux dire, il y a moins d'impôts qui rentrent.
Là, moi, je m'inquiète pour notre société.
Ça,
je m'inquiète pour notre société si on en est à compter sur les personnes âgées à la retraite qui ont des dettes puis qui ont peu de moyens pour renflouer les coffres de l'État.
Oui, tu as raison.
Mais en même temps, il ne faut pas oublier les personnes qui n'ont pas cette possibilité-là, qui n'ont même pas l'argent
en plus,
à transférer.
C'est ça.
Donc, on a eu une personne qui parlait de bénévolat auprès des personnes âgées qui réhypothèquent leur maison, pas pour se payer un voyage, même pas pour aider leur famille à arriver, mais pour vivre eux-mêmes, pour pouvoir payer l'épicerie. Donc, quand on a des personnes qui sont dans cette situation-là, on parle de personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, puis ce que le gouvernement nous garantit avec les revenus universels, avec le supplément de revenus garanti, avec la pension de sécurité de la vieillesse, c'est 18 000 $ là. C'est pas
18 000?
18 000 $
En dessous du seuil de pauvreté.
Après ça, on a le travail, puis là, on peut cotiser avec le RRQ, mais si on cotise toute sa vie au RRQ avec le maximum de salaire assurable, bien, ça ne donne pas des salaires, ça ne donne pas un revenu qui est très élevé non plus. Là, on tourne autour de 24 000, 25 000 $ Alors, ça, c'est...
Tu ne pourras pas vraiment te faire des voyages de saumon dans les pourvoiries privées à 2 000 $ par jour.
On parle de 25 000 $ pour un travail qui était de 50 000, 55 000.
Avant,
fait que là, on a besoin d'avoir les régimes des employeurs, on a besoin d'avoir les économies personnelles, on a besoin d'avoir...
Le régime des employeurs, c'est un autre
débat. Ça, c'est un autre dossier.
Je pense qu'on peut mettre une croix là-dessus. Là. Dans les années à venir, c'est pas ça.
Il faut trouver une manière d'aider les personnes qui ont des régimes de retraite, qui ont des REER, mais il faut aussi trouver une manière d'aider cette masse de personnes qui en ont même pas.
Tout à fait.
C'est ça, exactement. C'est pour ça que le réseau FADEC se bat aussi.
Mais lâchez pas.
On lâchera pas ça.
Merci beaucoup à toutes les deux, Evelyne Couturier, chercheuse à l'IRIS, Lynn Remillard de la FADEC. On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, est-ce que vous pensez que le fleuve Saint-Laurent est en assez bonne santé? Vous savez, on l'oublie, mais 80% de l'eau qu'on boit provient du fleuve. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, mais ma prochaine invitée est allée voir et elle y retourne en plus. À tout de suite, tout le monde.